9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Avec vous, Julie, nos amis auditeurs, pour une plongée gratuite jusqu'à 11h dans nos océans et une exposition qui vous attend dès aujourd'hui à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. L'océan qui couvre la majeure partie de la Terre, mais qui reste encore très méconnu. Vous allez découvrir une biodiversité incroyable, loin du littoral, une vie de plancton microscopique, vitale, une faune si singulière dans nos mers et les ressources insoupçonnées du milieu marin. Entre projections, son et lumière, vous allez être littéralement plongé dans ces océans. Et on vous propose une visite guidée avec nos invités, biologistes, connaisseurs, avec vos questions si vous le souhaitez. Le standard est ouvert, on vous attend Julie.
Le 39-21, il y a les réseaux sociaux aussi avec le hashtag Europe 1.
Et on relaie tout ça jusqu'à 11h.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
L'évocation des sons de cette mer, de ceux qui la peuplent, avec cette musique magnifique d'Éric Serra illustrant le grand bleu. Le grand bleu, comme la Terre, qu'il est aussi la planète bleue, et c'est ce qui frappe bien évidemment quand on le regarde du ciel. Bonjour Bruno David.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, président du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Vous êtes également biologiste marin. Et Anne-Camille Bouillet, conceptrice de cette exposition Océan, une plongée insolite. Bonjour.
Bonjour.
Exposition qui commence aujourd'hui au Muséum National d'Histoire Naturelle. Les mers, les océans, les lacs, les rivières, les étangs, c'est 70% de la surface de la Terre. Et pourtant, Bruno David, et c'est l'ancrage, le commencement de cette exposition, on sait si peu de choses sur ces océans.
Oui, j'ajouterais même que l'océan, c'est 96% du volume offert à la vie sur Terre, puisque la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3700 mètres, et que la vie occupe toute l'épaisseur de cette profondeur océanique. Alors que sur les continents, même si les continents sont cabossés, la vie occupe simplement une pellicule qui fait quelques centaines de mètres, là où vont les oiseaux qui volent les plus hauts. Et donc, si on compare les volumes, 4% c'est la vie terrestre et 96% c'est la vie marine.
C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut se dire et s'imaginer que s'il y a une vie sur la Terre, on a une vie mille fois plus riche, foisonnante dans ses profondeurs, parfois sous-marines, et dont on ne connaît qu'un petit bout.
Je vais vous contrarier, mais paradoxalement, non. La vie est moins foisonnante dans les océans que sur les continents.
Ouais.
En termes de richesse, en termes de nombre d'espèces, il y a plus d'espèces qui vivent sur les continents. Mais ça, c'est lié à l'histoire entre les insectes et les plantes à fleurs.
Mais d'espèces connues pour nos
Nombre d'espèces. Mais même en espèces inconnues, parce qu'on peut quand même faire des projections sur le nombre d'espèces qui pourraient peupler la planète, parce qu'on fait des efforts d'échantillonnage et on voit de combien d'espèces nouvelles on trouve à chaque fois. Donc en faisant une sorte de règle de trois, on peut se projeter et se dire il y a entre 10 et 20 millions d'espèces sur Terre et on pense qu'il y a autour de 2 millions d'espèces marines. Donc ce qui représenterait à peu près 10% du total des espèces peuplant la planète.
D'accord, mais c'est un monde à découvrir. Comment vous avez conçu, Anne-Camille Bouillet, cette exposition pour plonger vraiment le visiteur au cœur de ces mystères océaniques ?
On a travaillé avec beaucoup de scientifiques, parce que c'est vrai que le sujet est vaste. Et le parti pris, c'était vraiment de s'éloigner des figures familières, en fait. On ne voulait pas parler des baleines, des dauphins, des requins, qui sont passionnants, hein, mais qu'on connaît déjà bien et qu'on a souvent d'ailleurs illustré dans nos expositions au musée. L'idée, c'était du coup d'aller à la découverte de choses méconnues. Donc, on espère que le visiteur sera surpris par ce qu'il va voir, à la fois des choses, donc le plancton microscopique, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi des animaux étonnants, des mondes profonds, de l'Antarctique, ou encore alors des choses un tout petit peu plus connues, mais finalement qu'on voit rarement, comme le calmar géant, le sélacanthe ou encore le régalec. Alors là, qui est vraiment celui-ci, je pense que beaucoup de gens vont le découvrir.
Évidemment, parce qu'on est guidé dans cette exposition par tous ces animaux aussi, et espèces parfois très étonnantes qui peuplent ces océans. Mais on apprend beaucoup, vous alertez d'ailleurs sur les dangers qui rôdent autour des océans. On en parle régulièrement dans cette émission. Les océans régulateurs du climat, Bruno David, dont il faut prendre soin, mais qu'on ignore trop souvent.
Oui, bien sûr. Et c'est surtout les organismes microscopiques de l'océan qui participent à cette régulation du climat. On a l'habitude de dire qu'une respiration sur deux, on la doit à l'océan, avec la production d'oxygène par le phytoplancton, le plancton végétal. Et puis, j'aime bien raconter l'histoire de ce plancton végétal aussi, qui régule la pluie, qui régule la fabrication des nuages, puisqu'il y a certaines espèces de ce plancton qui fabriquent une sorte de produit chimique qui va servir de point d'ancrage à la vapeur d'eau qui va ainsi former des gouttelettes, et ces gouttelettes vont former les nuages. Donc on est dans un cycle vertueux, parce que quand il fait beau, la photosynthèse, donc la machine à fabriquer ces algues, fonctionne à plein, parce que l'énergie solaire arrive, donc il y a beaucoup de ces algues, elle fabrique beaucoup de ces particules, ça fabrique beaucoup de nuages, il fait mauvais, il y a moins de plancton végétal, donc il refait beau. Et après, ça recommence.
Les océans qui sont aussi une pompe à carbone. Hein,
et bien sûr, c'est un puits de CO2 très essentiel. Important. Ça représente plus de la moitié du puits de carbone de la planète. C'est plus important, le plancton végétal est plus important que la forêt tropicale, par exemple, en termes de puits de carbone. Donc, on ne s'en rend pas compte parce que c'est microscopique. Mais par contre, c'est très, très efficace. Parce que si vous prenez un arbre, il a des racines, il a un tronc, il a des feuilles, la photosynthèse va se faire sur seulement une surface des feuilles. En hiver, éventuellement, il n'y aura plus de feuilles. Alors que le plancton végétal, chaque cellule est efficace. Ce sont des microcellules, il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de branches. Donc, c'est d'une efficacité absolument phénoménale.
C'est ça qui est fascinant dans l'océan, c'est qu'il y a un écosystème, il y a un équilibre, évidemment, que nous sommes aussi, avec nous, nos empreintes et notre pollution, en train de perturber cet équilibre, avec des courants perturbés, avec des espèces qui migrent de fait. Et on va y venir, Anne-Camille Bouillet, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le rôle précieux de chacun des éléments qui peuplent l'océan.
Tout à fait. Et puis on a vraiment voulu montrer ça également au sein de l'exposition. Et puis on a fait tout un parcours aussi pour sensibiliser aux menaces du coup qui pèsent sur l'océan. Et on va retrouver du coup des focus tout au long du parcours. On va parler bien sûr de l'acidification des océans, de la pollution plastique, de la surpêche, et puis aussi des projets d'exploitation minière dans les grands fonds.
Et je voudrais que vous nous parliez juste après la pause de ces espèces incroyables qu'on trouve, qui parfois sont restées dans des bocaux. Je ne sais pas exactement comment vous les avez conservés, mais certains ont plus de 50 ans. C'est assez impressionnant de les voir au bas mot. Bruno David, Anne-Camille Bouillet, pour cette exposition Océan, une plongée insolite. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Jusqu'à 10h, nous plongeons dans les eaux mystérieuses et fascinantes des océans à l'occasion d'une exposition qui leur est consacrée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
N'oubliez pas les provinciaux, le Muséum National.
Voilà, cette expo ouvre aujourd'hui au public.
Oui, et vous parlez de plongée, c'est vraiment le terme, Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, parce que vous avez conçu l'exposition ainsi, c'est-à-dire qu'on descend aussi au gré de cette exposition dans ce qu'on peut qualifié de profondeur, pas les abysses, mais quasiment les profondeurs.
Bon, il se trouve que la salle d'exposition de la Grande Galerie de l'Évolution est en sous-sol.
Voilà, on n'est pas à 200 mètres de fond, mais on est déjà... Bon.
On avait les météorites qui venaient du ciel et on descendait aussi dans un sous-sol, parce que c'était la même salle. Là, pour l'océan, ça va très très bien et on a une ambiance très immersive dans cette exposition, avec une musique d'ambiance, avec des éclairages particuliers, qui enveloppe un peu le visiteur. Et ça fait une ambiance très très agréable, avec des voilages qui séparent les différentes parties de l'exposition, qui sont semi-transparents. C'est assez vaste, on circule très très bien dans cette exposition, on n'est pas cloisonné du tout, mais on est dans une ambiance particulière, avec différents segments dans l'exposition qui sont bien marqués au sol par des changements de couleurs, par des choses comme ça, et on est vraiment immergé. Et les visiteurs qui ont pu avoir la chance de la voir hier soir ont tous eu cette sensation d'immersion.
Et oui, j'ai le plan sous les yeux balisé de cette odyssée sous-marine. Ce monde à explorer, à commencer par le ballet du plancton. Ensuite, on passe au gré du courant, on plonge dans les milieux extrêmes, à la rencontre des habitants du froid. On parlera ensuite de cet océan qui est plein de promesses pour le biomimétisme, pour la médecine notamment. Et tout au long de cette exposition, Anne-Camille Bouillet, vous qui l'avez conçue, vous proposez aux visiteurs des spécimens. Alors, il y a une soixantaine de spécimens, donc espèces animales essentiellement, que vous présentez et qui ont été vivants, évidemment.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu notre marque de fabrique. On est au Muséum National d'Histoire Naturelle. On a des très belles collections, donc on en a profité. Sachant que pour cette exposition, c'était un vrai challenge parce que les organismes marins sont souvent conservés dans l'alcool. Donc, bien sûr, les scientifiques... ça garde l'intérêt scientifique, mais d'un point de vue présentation au public, c'est des fois un petit peu compliqué parce qu'ils sont un petit peu dénaturés, ils perdent leur couleur. Donc là, on a, alors bien sûr, certaines de nos collections qui viennent certaines des présentations qui viennent des collections patrimoniales, mais également des spécimens qui ont été récoltés à l'occasion d'expéditions récentes. Il y a beaucoup, beaucoup d'expéditions scientifiques menées par les scientifiques du muséum. Et donc, on a préparé ces spécimens spécialement pour l'exposition, grâce au travail notamment de toute l'équipe de taxidermie. On a des taxidermistes en interne, on a cette chance leur redonner vie en quelque sorte, et donc les visiteurs pourront les découvrir tels qu'ils sont dans la
nature.
C'est
incroyable, ils les ont sortis du formol avec certaines espèces pêchées dans les années 60 et qui sont intactes. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu plus blanchis peut-être par l'alcool et par le temps, mais ils sont entiers quoi.
Tout à fait, alors notamment on a un très beau sélacanthe.
Qu'est-ce que c'est un sélacanthe?
Alors un sélacanthe c'est un gros poisson qu'on a longtemps en fait, on l'a cru disparu pendant très longtemps, avant de le redécouvrir en 1938. Donc il a une histoire tout à fait fascinante qu'on raconte dans l'exposition. Et donc oui, il n'a pas tout à fait sa couleur d'origine. On le montre d'ailleurs évoluant dans son environnement. Donc on a l'occasion de pouvoir vraiment le voir tel qu'il est dans la nature. Mais il a été particulièrement bien préparé et présenté. Donc je pense que pour les visiteurs, ce sera une première pour un bon nombre.
Ah oui, des spécimens étonnants avec les taxidermistes maison que vous évoquiez. Écoutez l'un d'entre eux interrogé par nos confrères du Parisien qui nous décrit un autre spécimen.
Alors, ça ressemble à un bec de perroquet. Ça en a vraiment la couleur et la forme, mais en fait, c'est un bec de calmar géant. Il a été ramassé par un chalutier et en fait, il a été trouvé dans le contenu stomacal d'un requin dormeur en Antarctique. Le calmar devait faire dans les 8, 9, 10 mètres, donc c'est déjà un beau spécimen.
Ah, c'est quelque chose, hein. Moi je me dis vraiment, on est dans l'histoire. Vous dites non, pourquoi Bruno David?
Non, parce qu'il n'y a pas de requin en Antarctique.
Ah bon, bah alors. Ah oui, bah, il est taxidermiste, et il ne sait pas tout sur les espèces.
Je suis désolé, mais là j'ai travaillé en Antarctique, il n'y a pas de requin en Antarctique.
Il a été retrouvé dans l'estomac d'un requin, ça c'est possible.
Oui, mais sans doute pas en Antarctique.
Ouais, d'accord. Mais voilà, par exemple, ce bec est impressionnant. Hein. Il sera présenté dans un bocal.
Il est présenté donc, dans cette partie qui est consacrée au calmar géant,
oui.
Donc animal mythique.
Oh,
donc on va même présenter du coup un vrai calmar géant. Il y a peu de musées qui en possèdent. C'est un calmar qui est d'habitude présenté dans la galerie permanente.
Et empaillé. Hein.
Alors qui est plastinisé. C'est effectivement une préparation un petit peu particulière qui permet vraiment de le découvrir pratiquement tel qu'il est.
Oui, on ne voit pas d'animaux vivants. Les animaux vivants, ils sont projetés sur les films qui peuplent cette exposition.
On parlait de l'immersion tout à l'heure. Ce qui participe aussi beaucoup à l'immersion dans cette exposition, c'est qu'on a des très belles, très grandes projections qui permettent du coup de donner vie à tous ces animaux, de les voir dans l'environnement. On a ce balai du plancton aussi qui est étonnant, qui en fait, on est plongé dans cet environnement on est à l'échelle en fait. De ces animaux et on a voulu quelque chose de très contemplatif, donc il y a bien sûr tout un discours pédagogique autour, mais cette projection est vraiment faite pour s'évader, pour rêver.
Juste après la pause on parlera du rôle du plancton, du phytoplancton aussi dans l'océan, et je souligne vraiment le rôle formidable du Muséum d'Histoire Naturelle, parce que plus de 20% des espèces marines qui sont décrites dans le monde ces 10 dernières années, soit 3000 espèces, l'ont été grâce aux campagnes du Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc vous êtes aussi un relais essentiel de cet apprentissage, de cette pédagogie. A tout de suite sur Europe 1, on explore les océans avec cette grande expo qui ouvre aujourd'hui.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Et nous prenons notre émission, notre tour de la question sur les océans et ses mystères.
À notre itinéraire océanique avec Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, biologiste marin, Anne-Camille Bouillet qui a conçu cette exposition qui débute aujourd'hui à la Grande Galerie de l'Évolution. On parlait de ces spécimens que vous présentez, une soixantaine. Et je vous posais la question pendant la pause. Répétez s'il vous plaît, Bruno David, aux auditeurs d'Europe 1, combien vous avez d'espèces dans les sous-sols du Muséum National?
Alors le Muséum prend soin et abrite dans ses réserves 70 millions de spécimens.
C'est
donc ça fait presque un par français.
C'est fou.
Maintenant. Et
il y en a des microscopiques alors, on imagine.
Il y en a des petits, ouais. Il y a beaucoup de 40 millions de ces spécimens sont des insectes.
D'accord.
À peu près.
Ouais.
Et puis après, il reste encore 30 millions d'autres choses. Il y a des fossiles, il y a des minéraux, il y a des animaux.
Ce qui appartient à notre patrimoine.
On a 8 millions de planches d'herbier, par exemple. On a le plus grand herbier au monde. Donc 8 millions de planches qui sont parfaitement reconditionnées, d'ailleurs, qui sont absolument magnifiques. On a l'herbier de Jean-Jacques Rousseau. Enfin, on s'écarte un peu des océans. Là,
oui, non, mais c'est formidable.
On a des choses historiques parce que le muséum est très ancien. Il a été créé en 1635. Appelé muséum en 1793 au moment de la Révolution. Mmh. Et les collections sont accumulées depuis plusieurs siècles. Et donc, c'est cette accumulation et c'est cet archivage du patrimoine de la nature, qui est un patrimoine commun de l'humanité, qui se retrouve dans les collections du muséum, qui en font les deuxième ou troisième plus grandes au monde.
Donc, vous êtes allé fouiller dans ces caves, Anne-Camille Bouillet, pour trouver des espèces et des spécimens suffisamment éclairants pour faire partie de cette exposition Océan. Quel choix fait. Terrible, parce que là,
alors, c'est pas du tout un choix que j'ai fait toute seule. Hein. C'est un choix qui a été bien sûr éclairé par les scientifiques, puisque on travaille avec beaucoup de scientifiques du muséum et d'ailleurs sur des sujets comme cela. Donc c'est eux qui m'ont guidée et effectivement il a fallu trouver ce qui était le plus pertinent par rapport au discours et puis ce qui aussi d'un point de vue présentation était impressionnant.
Mmh. Vous avez plongé dans votre vie, Bruno David.
Oui, dans ma vie de biologiste, oui. J'ai plongé. J'ai eu la chance de plonger au-delà des deux cercles polaires, dans des eaux très très froides,
oui.
Et y compris au-delà du cercle polaire sud, en Antarctique. Et puis j'ai eu aussi la chance extraordinaire de pouvoir plonger avec le Nautil, le sous-marin jaune de l'Ifremer, jusqu'à 2500 mètres de profondeur dans le Pacifique.
Oui, à partir de 200 mètres de profondeur, on est dans le noir.
Oui, l'obscurité est totale au-delà de 200 mètres de profondeur. Alors comme disait Camille pendant la pause, à part quelques organismes qui émettent leur propre lumière.
Enfin, qu'on appelle bioluminescence.
Oui. Mais ce sont des lumières qui sont très très faibles. Hein. Faut pas imaginer un organisme qui éclairerait le fond de la mer ou quelque chose comme ça. C'est une lumière très ténue. Mais il y en a qui sont magnifiques. Hein. Il y a des organismes très très primitifs d'ailleurs, très sommaires, qui font des sortes de guirlandes de Noël de toutes les couleurs, comme des arcs électriques qui se déplacent le long de tout petits organismes qui font quelques centimètres, qui sont complètement transparents et ils ont ces guirlandes magnifiques. Et on peut les voir dans l'exposition.
Oui, c'est un esthétisme que vous avez souhaité aussi représenter, qui est très important.
Tout à fait. En fait, on est parti vraiment d'images scientifiques, de photos, d'images animées. Et on a voulu aussi, à partir de ça, montrer la dimension esthétique, presque artistique, on pourrait dire, de ces organismes.
Je voudrais qu'on accueille un autre plongeur. Il est avec nous et il est en prise régulière avec ces océans. Laurent Marie est en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Et merci de suivre avec attention ces échanges. Je précise que vous êtes né en Bretagne, à Saint-Malo. Je ne sais pas si vous étiez prédestiné à vraiment vivre dans cet élément marin. Mais en tout cas, vous avez depuis 10 ans une passion pour la plongée, pour l'apnée, évidemment, que vous pratiquez maintenant aussi comme moniteur-entraîneur, qui vous permet d'approcher cette faune, cette flore que nous décrivons.
Voilà, exactement. C'est une expérience qui est liée principalement à l'Antarctique et à l'Arctique. Donc on peut voir une différence forte entre le comportement des animaux en Arctique qui sont chassés, qui sont plus craintifs. Et au cours des expéditions en Antarctique, j'ai pu approcher par exemple des grands mammifères comme le phoque léopard qui est l'un des grands prédateurs. Il peut faire jusqu'à 500 kilos. Et nous étions ce jour-là dans le cimetière des icebergs, près de l'île Pleineau en Antarctique. Et donc ce phoque est venu vers moi. Il s'est avancé en avançant sa tête doucement. Et ensuite, il s'est mis à nager avec ses nageoires. Il a fait une véritable danse qui était vraiment très belle à voir. J'étais en admiration devant ce spectacle. Et on se sent devant cette beauté vraiment tout petit.
Ouais, c'est magnifique. Et derrière ces grandes espèces que vous décrivez, il y a ces espèces qu'on connaît moins et qui sont mises en valeur dans cette exposition. Vous savez bien que vous nagez donc, que Laurent Marie nage dans le plancton, pour dire bref, Bruno David.
Oui, bien sûr, il y a du plancton partout.
Qu'on ne voit pas, c'est microscopique.
Et notamment dans les eaux froides qui sont très très riches. Donc vraiment, il y a beaucoup beaucoup de plancton. On pense souvent que les eaux froides sont pauvres. Et en fait, c'est l'inverse. Et moi qui ai aussi eu la chance de plonger en Antarctique, alors pas en apnée, mais avec des bouteilles, on constate quelqu'un de relativement naïf considérerait qu'on est sur un récif de corail par endroit. Tellement il y a des couleurs, tellement c'est riche. Alors après, on s'aperçoit que les couleurs sont dues aux éponges et pas à du corail. Mais il y a une diversité qui est absolument extraordinaire et ce sont des plongées magnifiques. Et il y a un film dans l'exposition qui plonge en Antarctique, qui nous amène en Antarctique avec des animaux absolument superbes.
Oui,
c'est très esthétique.
Le plancton qui est invisible à l'œil nu, Anne-Camille Bouillet, mais qui est essentiel à la vie sous-marine.
Hein. Tout à fait. Alors le plancton, en fait, il y a aussi des organismes qui sont plus gros.
D'accord.
Mais c'est vrai que nous, on a fait vraiment le focus sur les organismes microscopiques.
Par exemple, la baleine se nourrit d'un type de plancton, des petits poissons qu'on
voit plus, du krill, du zooplancton, mais qui est effectivement plus gros. Mmh. Mais là, l'idée, c'était vraiment justement de donner à voir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu.
Oui, Laurent-Marie, vous restez avec nous juste après la pause. Vous allez nous parler de vos différentes expéditions à venir, de ce que vous avez pu mettre en avant, vous, dans votre rapport à l'océan aussi, pour sensibiliser. Vous avez 39 ans aujourd'hui et c'est devenu une passion. Et vous éclairez aussi cette exposition qui commence aujourd'hui au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Océan, une plongée insolite. À tout de suite sur Europe 1. Décoriste, caresse sur l'océan, comment aussi on sensibilise les plus jeunes générations à ce monde mystérieux, fascinant, régulateur du climat, mais encadré par un certain nombre de pollutions, des fléaux aussi, on parlera de l'acidification des océans. En tout cas, on rêve et on se projette dans ce monde avec cette grande exposition, c'est en ce moment, ça ouvre aujourd'hui, ma chère Julie.
Au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, nous sommes à la découverte de ce monde encore largement inconnu qui est l'océan.
Oui, et j'aimerais que, avant d'accueillir de nouveau Laurent-Marie qui est apnéiste et qui se prépare pour une grande expédition dans le Grand Nord canadien, que vous nous parliez d'un spécimen, c'est quelque chose. Alors certes, il n'y a pas de baleine, il n'y a pas de dauphin, de requin, cette fois dans cette exposition-là, Anne-Camille Bouillet, mais il y a une saga du calmar géant. Et alors le calmar géant, il peut faire plusieurs mètres.
Alors, les plus grands connus, c'est 18 mètres. Donc ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Ouais. Mais enfin, c'est de toute façon des très gros animaux.
Mmh. Qu'on croise où, en général ?
Alors, qu'on croise plutôt dans les abysses, enfin, dans le monde vraiment profond. On ne connaît pas très, très bien leur répartition, parce qu'en fait, ils sont difficiles à observer. Dans l'exposition, donc, on aura un spécimen réel de calmar. Mmh. Et puis, on aura également des images le montrant dans son environnement. Ce qui est très rare, en fait, puisqu'il y a eu très, très peu d'images réalisées.
Mais oui, parce que c'est très, très profond, justement. Donc, ce calmar, il a été prélevé où, par exemple, celui que vous exposez ?
Alors, il a été... Alors, que je ne dise pas de bêtises...
Je crois qu'il vient du Pacifique.
Mais oui. Mais il a été pêché en profondeur. T'imagines ?
Alors, il a été récupéré. Je pense que c'est un. Alors, il n'a pas été en profondeur. Mmh. Je pense que c'est un calmar qui avait dû s'échouer. Mais alors...
Mais ces animaux, on les a longtemps trouvés simplement échoués sur les plages. C'est comme ça qu'on a eu les premières connaissances de ces calmars. Et puis après, en chassant des cachalots, on s'est aperçu qu'il y avait des traces de ventouses de calmars sur la peau des cachalots.
Parce qu'ils
peuvent se battre avec les cachalots. Ils sont la proie des cachalots. Hein, donc forcément, ils se défendent contre les cachalots. Et on a longtemps trouvé simplement des individus échoués. Et on a vu ces gros animaux. Et c'est seulement récemment que des Japonais ont réussi à les filmer dans l'environnement très profond. Ce sont des images absolument exceptionnelles qui sont présentées dans l'exposition en même temps que le spécimen, notre spécimen de calmar géant du muséum.
Ah oui, c'est qui est assez exceptionnel. Laurent-Marie, je ne sais pas si dans vos plongées diverses et variées, vous avez croisé vous des calmars ou autre espèce
qui
se parle. Parce que c'est assez imposant. En tout cas, vous vous préparez dans moins d'un mois pour partir dans le Grand Nord canadien, en Arctique. Que voulez-vous y voir et y découvrir, Laurent-Marie ?
Alors, oui, cette expédition, c'est un long projet qui a commencé en 2015. Je réalise un documentaire avec mon frère Vincent, qui va s'appeler « Les harmonies invisibles ». Et nous allons parler du lien puissant et fort qui existe entre les Inuits et leur environnement. Mmh. Et nous partons dans un mois et demi, durant le printemps arctique, le soleil traverse la banquise, et on entendait parler tout à l'heure, c'est la photosynthèse. L'efflorescence algale, la base de la chaîne alimentaire. Et au bord du Floyd, justement, au bord de la banquise, nous allons observer les animaux légendaires du Grand Nord, les belugas, les orques, peut-être les narvals, pour faire des images. Et toujours aussi, pour rejoindre cette exposition du Muséum de l'Histoire Naturelle, sensibilisé par la beauté du monde.
Oui, c'est un vrai rôle de pédagogie aussi que vous faites, comme la goélette Tara fait depuis maintenant 10 expéditions à travers les mers du monde pour comprendre l'impact des changements climatiques et les impacts environnementaux que l'océan subit. C'est aussi au cœur de cette exposition. On donne à voir, mais on donne aussi à réfléchir, Bruno David.
Oui, bien sûr. Bah, c'est toujours pareil au muséum. La devise qu'on a pour le muséum, c'est émerveiller pour instruire, et on cherche vraiment à le faire dans cette exposition. Ceci dit, on n'a pas voulu que l'exposition soit une exposition qui fasse une place trop large aux menaces qui pèsent sur l'océan. Et on n'a pas voulu, par exemple, terminer l'exposition par un module qui aurait été exclusivement consacré aux menaces et qui aurait été une sorte de chape de plomb sur la tête du visiteur en sortant de l'exposition, qui lui aurait cassé le moral. Donc, en quelque sorte, on a voulu échapper à ça. Et la proposition d'Anne-Camille, ça a vraiment été dégrainer à quelques endroits de l'exposition des spots autour des menaces, mais sans en faire vraiment un fil rouge et sans être trop lourd. L'objectif, c'est vraiment d'émerveiller le visiteur, à travers cet émerveillement, de susciter une certaine émotion. Et j'ai utilisé l'expression, cette exposition est en quelque sorte un vaccin contre l'indifférence. C'est-à-dire qu'une fois que le visiteur est sorti de cette exposition et qu'il entend par ailleurs, sur vos ondes ou ailleurs, parler de menaces sur l'océan, on l'aura sensibilisé à la beauté de l'océan et il sera plus réceptif finalement à sa protection.
Laurent Marie, dans une émotion permanente pour vous.
Oui, et puis je rejoins Monsieur David sur le son et l'univers sonore transmettre les émotions aussi. Là, je pense notamment au chant des baleines à bosse. C'est un chant qui est très complexe. Et quand ce chant vous traverse, eh bien, vous êtes touché au plus profond de vous. J'ai un enfant de 4 ans lors d'une présentation. Je lui ai fait écouter le chant d'une baleine à bosse. Et il m'a dit que ce chant lui avait fait danser son cœur. Donc, c'est représentatif de cette émotion puissante. Et on sait que ces animaux, que ces cétacés sont dotés de leur conscience, d'une conscience de leur existence. Et ils sont dotés d'émotions aussi. Et là, je reprends des études aussi de Monsieur Chapoutier, qui est spécialiste et qui dépend du Centre de l'émotion de l'Université de Pierre-Marie Curie. Et voilà, qui nous explique qu'une baleine peut ressentir de la douleur.
Oui, l'émotion dans un monde qui n'est pas, contrairement à ce que disait Monsieur Cousteau, Bruno David, un monde du silence. Maintenant, l'océan est devenu un enfer presque acoustique pour ces bêtes d'ailleurs, pour ces espèces qu'on parle.
Il faut simplement savoir que physiquement, l'eau transmet mieux les sons clairs. Oui. Donc on est très réceptif aux sons dans l'océan, on entend beaucoup de sons quand on plonge. Et bien sûr, les animaux, il y a pas mal d'animaux qui communiquent de manière sonore dans l'océan, parce que comme l'eau transmet beaucoup les sons, c'est un moyen de communication et de partager, notamment chez les cétacés qu'évoque Laurent Marie, bien sûr, mais pas que. Il y a aussi d'autres animaux qui utilisent le son pour communiquer. Et toutes les activités humaines qui font du bruit dans l'eau,
perturbe,
en quelque sorte, viennent perturber tous ces signaux.
Oui, Laurent Marie, pour conclure, avant de vous libérer.
Oui, complètement, on en parlait hier avec une scientifique, c'est Bénédicte Madon, au sujet d'un film, c'est Sonixy. Et en fait, oui, il y a énormément de pollution sonore qui existe, des ondes sismiques, le bruit des navires, qui créent du stress, des perturbations et aussi de la surdité. Voilà. Et ça, c'est faut le savoir. Donc, on peut réfléchir aussi à notre mode de consommation qui peut influer ces perturbations. Mais sinon, moi, je vous invite le 10 mai à la Cité de la Mer. Je fais une conférence pour l'ouverture de la future exposition, l'Océan du Futur.
Oui.
Et je vais parler aussi d'un nouveau projet qui s'appelle H2O. Nous allons partir à la rencontre des peuples de l'eau à bord d'un trimaran hybride en aluminium en embarquant des plongeurs, des scientifiques, des enfants, des aires marines éducatives, toujours pour l'éducation des jeunes générations. C'est très important.
Et ben voilà.
On va embarquer des mécènes pour financer cette expédition. Et nous allons avoir aussi à bord un sous-marin pour descendre et explorer les abysses. C'est un monde fascinant que nous devons connaître et que nous devons transmettre.
De Paris à Cherbourg, merci. Voilà, Laurent Marie, on retrouve vos aventures aussi par le biais de la Cité de la Mer, apnéiste, explorateur de ces fonds marins dont on parle aussi avec nos invités à Paris en studio, Bruno David, et Anne-Camille Bouillet pour le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris avec cette exposition du moment Océan. A tout de suite, Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, nous faisons l'inventaire de tout ce qu'on trouve dans les océans. Wendy Bouchard. On n'aura pas assez d'une petite heure du tour de la question. Allez-vous, comme Bruno David, sa vie, Anne-Camille Bouillet, conceptrice de cette exposition Océan, une plongée insolite. Il y a un segment très intéressant de cette exposition qui concerne la bio-inspiration. C'est une approche qui consiste à étudier sous toutes ses formes la nature et à s'en inspirer pour trouver des solutions thérapeutiques, des solutions moins polluantes par exemple. Et j'aimerais que vous nous parliez d'un ver marin qui s'appelle l'arénicole, parce qu'en l'observant on apprend beaucoup.
Oui, alors c'est un ver en fait qu'on connaît finalement parce que on le retrouve sur les plages bretonnes par exemple. Et c'est un ver qui a été étudié par un scientifique en Bretagne et il s'est rendu compte en fait qu'il avait une hémoglobine tout à fait particulièrement intéressante, qui pouvait avoir un intérêt notamment pour la conservation des greffons, c'est-à-dire qu'en l'utilisant, on va pouvoir oxygéner de façon plus intense, plus importante, les greffons et donc permettre de les conserver plus longtemps.
Donc en partant de l'observation de ce ver marin, on peut aider la conservation du sang humain.
D'un greffon humain. Tout à fait. Donc en fait, là, dans l'exposition, on va parler de toutes ces molécules issues d'organismes marins qui peuvent avoir un intérêt thérapeutique tout à fait intéressant. Il y a une chimiodiversité extrêmement forte en fait dans le milieu marin. Beaucoup d'organismes, notamment qui vivent fixés, vont utiliser ces molécules pour communiquer, pour se défendre. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir les identifier, de pouvoir bien sûr les synthétiser, parce qu'il s'agit pas d'aller piller l'océan, mais bien de synthétiser des molécules existantes et de les utiliser donc pour différentes applications.
Par exemple, vous vous intéressez, enfin les scientifiques, à la substance qui est sécrétée par la moule, puisque vous parliez d'animaux qui se collent. Cette substance était peut-être intéressante à quelle fin, à quel but ?
Tout à fait, parce qu'en fait, du coup, c'est une colle qui fonctionne en milieu humide. Et du coup, c'est très très intéressant, par exemple, pour les chirurgiens. Parce que du coup, on va pouvoir. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'utiliser la colle prélevée sur la moule,
mais en
étudiant sa composition, on va pouvoir reproduire une colle qui va pouvoir être utilisée, par exemple, pour des lésions internes chez l'humain.
Il y a ce qu'on appelle aussi l'hydrodynamisme, puisqu'on parlait de la baleine à bosse, par exemple, Bruno David, qui est colossale et qui en même temps est très agile. Quand on la voit sortir de l'eau, se projeter dans les airs et retomber comme ça, on se dit comment une bête qui pèse je ne sais pas combien de tonnes arrive à avoir cette légèreté. Et ça peut inspirer aussi la technique, la technologie.
Oui, bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte sur les ailerons des baleines, leur nageoire antérieure, leurs pattes avant, puisque ce sont des mammifères, il y avait des ondulations. Donc ça a paru un petit peu étrange et on s'est dit, mais tiens, c'est bizarre ces ondulations. Et après, on a fait des tests en hydrodynamisme et on s'est rendu compte que c'était plus hydrodynamique que d'avoir quelque chose de lisse, et que d'avoir un rebord lisse. Donc ça inspire après les pales des éoliennes, par exemple. On est en train de réfléchir à comment on pourrait appliquer ça sur des pales d'éoliennes et faire des pales d'éoliennes dentelées au lieu de les faire lisses, pour qu'elle soit plus efficace.
C'est génial. Sur les matériaux innovants encore, le corail est très inspirant.
Alors, le corail est très inspirant. Il y a beaucoup de choses qui ont été tirées aussi pour faire des greffes osseuses. Et notamment à partir du corail, il y a des études qui sont faites de biominéralisation. Donc là, ça va devenir très technique, mais on va chercher par exemple les protéines qui sont à l'intérieur de la partie squelettique, du squelette dur. Et on va regarder quel type d'application on peut en faire pour tout ce qui est greffe osseuse, squelette humain, régénération du squelette, etc. etc. Donc on est vraiment sur ces modèles de bio-inspiration parce que je pense qu'il faut que l'homme soit un petit peu plus modeste que ce qu'il a tendance à être. Et on se rend compte, on parlait des molécules thérapeutiques tout à l'heure, ou pour des greffons, comment finalement on peut mieux les transporter et faire en sorte qu'ils s'oxygènent mieux. C'est souvent la nature qui nous apprend comment il faut faire. Et nous après, on perfectionne, on améliore. Mais si on partait d'une feuille blanche, on ne saurait pas faire.
La biodimension, le biomimétisme. Vous vouliez une baleine, ma chère Julie ? Vous vouliez entendre le son d'une baleine ?
Une baleine, oui.
Voilà. Oh là là, je sais pas.
Oh, mais c'est douloureux.
Ça, c'est un dauphin, c'est une baleine ?
Baleine.
Ah oui ? Mais quel type de baleine ?
On dirait le bruit d'une IRM, là, quand on est dans le...
Magnifique.
C'est une IRM, mais que ça
vous avez entendu ça, parfois, Bruno David ?
Ah non, j'ai pas eu la chance d'entendre des baleines. J'ai eu la chance d'entendre des dauphins, des orques... Mais pas de baleines. J'en ai vu beaucoup, mais je ne les ai pas entendues sous l'eau.
On va replonger avec vous dans un instant dans les eaux glaciales de l'océan Austral. Je crois que vous avez croisé des espèces en eau très froide et on va voir comment ces espèces parviennent à survivre, justement à s'adapter du moins, parce que c'est aussi la richesse de cette nature. À tout de suite jusqu'à 11h pour une plongée dans les océans, plongée insolite. Expo qui ouvre aujourd'hui jusqu'au 5 janvier à la Grande Galerie de l'Évolution au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris.
Retour au cœur des océans avec Wendy Bouchard et ses invités.
D'Offenbach à Kersauzon, que je cite grâce à Léna Banana sur Twitter, hashtag Europe 1, qui nous donne cette phrase du grand marin Olivier. Il ne faut pas se méprendre, la terre commence là où la mer s'arrête et non l'inverse. Océan, une plongée insolite que vous nous proposez, Bruno David et Anne-Camille Bouillet, avec cette exposition aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle. Les eaux glaciales de l'océan abritent aussi une vie foisonnante. Parfois on est à 0 degré. C'est un défi pour les espèces et pour ces poissons en particulier, et qui vivent là et qui s'adaptent, Bruno David ?
Oui, bien sûr. Alors, on est même en dessous de 0 degré, parce que comme c'est de l'eau salée, les eaux les plus froides de la planète, encore liquide, sont à moins 1,9 degré.
Exactement.
Ouais. Donc, j'ai eu la possibilité d'y plonger. Je peux vous dire que c'est vraiment très, très froid, qu'on n'y reste pas un temps fou et que ce n'est pas forcément les meilleurs souvenirs en termes de température. Par contre, en termes de paysage, c'est magnifique.
Oui.
Mais pour revenir à l'adaptation, oui, effectivement, la vie s'est adaptée là parce que ce sont des eaux qui sont très riches et donc qui sont intéressantes à habiter. Mais ceci dit, il faut quand même s'adapter au froid. Et les poissons, un de leurs soucis, c'est déjà comment faire en sorte que l'intérieur du poisson ne gèle pas.
Mmh.
Donc, les poissons antarctiques ont développé des protéines antigel, qui fait qu'ils ne gèlent pas, même quand ils sont plongés dans de l'eau inférieure à 0 degré.
C'est incroyable.
Et puis, comme ces eaux sont très très riches en oxygène, certains de ces poissons ont développé un système qui leur permet de se passer des hémoglobines. C'est-à-dire qu'ils ne le transport de l'oxygène à l'intérieur de leur corps ne passe pas par l'hémoglobine qui fait que notre sang est rouge.
Donc, ils
et
qui ont
est
un sang
le transporteur
blanc,
d'oxygène. Ils ont un sang qui est transparent, en quelque sorte. Et l'oxygène percole à travers, traverse la surface de leur corps. Et ils ont un système suffisamment rapide qui permet d'alimenter tous les organes en oxygène en se passant d'hémoglobine. Alors on voit bien qu'avec, et ça ce sont des systèmes qui ne marchent que dans des eaux très froides. Et on voit bien qu'avec la menace du changement climatique par exemple, il est évident que ces espèces ne pourraient pas supporter une augmentation de température de l'océan austral parce que toute leur physiologie est basée sur une température très très froide.
Et on a une capacité d'adaptation, mais qui est limitée. Hein,
ces espèces ont une capacité d'adaptation forcément limitée.
Ouais.
Je peux vous donner un autre exemple que je connais bien. Dans ces eaux très très froides, il y a des oursins kangourous. Donc là, je ne peux pas résister au plaisir de vous en parler.
Les oursins kangourous, alors ça ressemble à quoi ?
Les oursins kangourous, c'est-à-dire que normalement, les oursins, les mâles et les femelles sont séparés, les gamètes sont émises dans l'eau de mer, hein, les spermatozoïdes d'un côté, les ovules de l'autre. Il y a une fécondation qui se fait dans l'eau de mer, une fécondation externe.
D'accord.
Après, il y a une larve qui va vivre sa vie de larve. Mmh. Puis, ça va se métamorphoser en un petit oursin. Chez ces oursins antarctiques, qui vivent dans les eaux très froides, il n'y a pas de phase larvaire. C'est-à-dire que les mâles vont émettre les spermatozoïdes, ces spermatozoïdes vont aller en direction de la femelle, vont féconder les ovules, et la femelle va abriter dans des poches qu'elle a sur le dos, comme des poches de kangourou en quelque sorte, ses bébés. Et les bébés vont rester pendant 9 mois dans les poches, et après ils vont sortir des poches et ils vont venir sur le fond, juste à côté de leur mère.
C'est génial.
Donc il y a un soin parental qui s'exprime chez ces oursins, et même il y a certaines espèces où au lieu d'avoir une centaine de bébés, il n'y a plus que 4-5 jeunes dans des poches qui sont cette fois à l'intérieur de la femelle avec des plaques qui vont s'ouvrir comme des portes et qui vont les libérer au bout d'un certain nombre de mois.
Oui, il y a de quoi surprendre dans cette exposition, comme nous le dit Bruno David. Et vous nous les montrez, voilà. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est à la fois l'apprentissage et la surprise, parce que c'est fascinant, quoi.
Oui, tout à fait. Bah, du coup, effectivement, dans l'exposition, on va pouvoir voir des oursins kangourous, des étoiles de mer aussi, qui sont incubantes également. Donc, on voit une étoile de mer avec des tout petits bébés étoiles de mer posées sur leur mère.
Oui, qu'elle protège entre ses bras.
Oh là là.
Donc, c'est assez touchant, c'est un petit peu émouvant.
Et c'est très poétique.
C'est du soin parental.
C'est du sang parental, ouais. Bah écoutez, voilà, vous nous donnez vraiment envie d'aller découvrir cette exposition au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est dans la Grande Galerie de l'Évolution, plongée insolite dans l'océan avec un esthétisme évidemment à la clé. Merci d'y avoir consacré du temps et un tour de la question.
Venez voir
aujourd'hui
cette exposition, les images sont absolument
Et venez en famille, alors c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais c'est vraiment une exposition familiale. Donc,
oui, il y a des jeux pour les enfants aussi.
Donc vraiment, même à partir de tout petit, même à partir de 5 ans, je pense que... tout le monde y trouvera son compte.
Merci à vous deux. Nous irons Bruno David, Anne-Camille Bouillet. À demain, ma chère Julie.
À demain.
Je remercie Manuel Kalman, Aïma Bencheman, Sarah Crou, Jean-François Bussière et vous, ma chère. Et je vous dis à demain, 9h donc.
C'était Wendy Bouchard. À demain. Dans un instant, Anne Roumanoff.